Bonsoir. Notre émission de ce jour est consacrée au témoignage de Lucien Montagnon. Lucien Montagnon fait partie de ces 1 343 000 jeunes Français appelés entre 1955 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie, dont plus de 13 000 ne reviendront pas vivants. Lucien Montagnon est né en 1938 dans une famille de mineurs à Firminy, qui paya un lourd tribut à la mine comme il nous le contera. Quand il eut 20 ans, ce fut l'âge de partir au service militaire, l'Allemagne d'abord, puis l'Algérie un an après. Un statut d'affecté au service postal le protégea largement de la réalité de la guerre, même s'il était installé dans une région très concernée, la Kabylie, près de Tizi Ouzou. Néanmoins, à son retour, il développa une conscience politique qui le porta jusqu'à aujourd'hui à s'engager sur les fronts syndicaux, sociaux et politiques. C'est le récit de ce vécu que nous vous proposons d'entendre au fil de cette émission témoignage. Bonne écoute. Lucien Montagnon, bonjour. Je te remercie de me recevoir pour Radio Canu pour évoquer en particulier ton expérience en Algérie, mais aussi l'ensemble de ton parcours de vie.
Oui, oui.
On va peut-être commencer par le début. Tu es né où ?
Alors, je suis né à Firminy, dans la Loire, le 21 janvier 1938. Je vais avoir 76 dans un mois.
Tes parents,
mes parents, donc mon père était mineur de fond et ma mère était à la maison. J'ai un frère qui est plus jeune, qui a également fait la guerre d'Algérie. Et donc j'ai fait ma scolarité normale, je marchais bien à l'école. Ma mère m'avait appris à lire, à écrire. Et donc on m'a fait sauter la première classe. Je l'ai reperdu en fin de parcours, mais enfin finalement je me suis retrouvé dans la moyenne. Dans la bonne moyenne, puisque je marchais pas mal, j'étais parmi la dizaine d'élèves qui ont été présélectionnés pour l'école normale d'instituteurs qui à l'époque se trouvait à Montbrison. Donc voilà, et puis mon père a eu un accident de la mine, un coup de poussière, pas un coup de grisou, le grisou était maîtrisé à l'époque. C'est un coup de poussière, c'est-à-dire ce sont des poussières en suspension qui font comme un gaz, qui a le même effet que le gaz. Ils auraient été des centaines, c'est pareil, hein, ils étaient tous.
Ah oui.
Donc, je me rappelle, il disait que une benne de charbon de 5 dixièmes était portée au rouge en quelques secondes. Alors, la peau, la viande, évidemment. Alors, mon père.
Moi aussi, je pense.
Elle est bourre, là, bien sûr. Donc, ils étaient quatre, et mon père a survécu 2-3 ans, à peu près, parce qu'il avait gardé un maillot de corps. Ils étaient à poil, parce qu'il était chaud. Donc il a survécu, mais il est mort des suites d'un dur à la tête parce qu'il a été passé par pour sauver la situation. Il avait eu un choc violent à la tête.
Et il était mineur où
Firminy,
il y avait des
puits. Au Campfort. Il y avait sur Firminy, il y avait le puits Monterra et le puits Campfort. Donc il était au puits Campfort.
C'était du charbon.
C'était le charbon. Donc il faisait partie d'une équipe, donc ils étaient trois. Donc il y avait lui, il était boiseur, c'est-à-dire qu'il protégeait l'avancement de l'équipe. Il y avait le marteau-piqueur et le chargeur de la benne. Voilà. Ils étaient payés au rendement et tout. Et c'est pour ça que lorsqu'ils ont attaqué une veine, il y avait des règles de sécurité qui ont obligé à arroser les galeries avant de tirer faire le bout de feu. Mais au début de l'attaque de la veine, il y avait l'eau. Mais 2 mois plus tard ou plus, l'eau n'a pas suivi. Ils auraient dû arrêter le travail, bien sûr, et attendre que l'eau arrive. Seulement, ils perdaient les primes de rendement, ils perdaient beaucoup de choses au niveau salaire. Et donc, ils ont continué à tirer, et puis boum, voilà.
C'est le fait de ne pas avoir eu l'eau qui
a... Et à tel point qu'ils ont été mis en cause, parce qu'on leur a dit qu'ils n'avaient pas appliqué les consignes de sécurité. C'est pour ça que moi, je me suis engagé après, par la suite. Ça m'a vraiment été un motif d'action. J'ai accepté pas, quoi. Parce qu'en plus, ils sont morts et ils étaient responsables de leur propre mort, quoi. Alors qu'en fait, c'était simplement les consignes de sécurité qui n'avaient pas été appliquées, pas par ceux qui travaillaient, mais par ceux qui étaient chargés de l'appliquer. Voilà, donc...
Et finalement, ça n'a pas été reconnu. Enfin,
il était considéré
comme responsable de
l'accident. Tout à fait. C'est lamentable.
Dans la tiédeur où le froid des matins, été, hiver, sur les mêmes chemins, nous retournons toujours d'un même pas vers le trou noir qui nous attend là-bas. Et par dizaines, par centaines, par milliers, que les grands puits ont au fait d'absorber, nous arrachons des galeries sans fin le noir charbon pour gagner notre pain. En avant, gueule noire, hissons notre drapeau, rougi du sang, couvert de gloire, de nos martyrs, de nos héros. En avant, gueule noire, fort de notre unité, nous marchons vers la victoire et la liberté. Où s'en vont-ils, ces petits gars, ces enfants, à peine âgés de 14 à 15 ans, qui ne connaissent de la vie que misère et qui travaillent déjà comme leur père? Où s'en vont-ils, ces petits enraillons que le destin a mis dans les coraux? C'est la relève de leurs frères, leurs aînés, qu'un dur labeur a bien vite épuisé. En avant, gueule noire, hissons notre drapeau, rougi du sang, couvert de gloire, de nos martyrs, de nos héros. En avant, gueule noire, fort de notre unité, nous marchons vers la victoire et la liberté.
Il n'y a jamais d'autres horizons que les crassiers dominant les maisons. Dans la fumée, la poussière sous nos pas, on va troupeau de parias, de forçats. Dans cette mine, engloutie chaque jour, combien des nôtres sont tombés sans retour? Pauvres victimes de l'insécurité, pour le profit on les a sacrifiés.
En avant, gueule noire, hissons notre drapeau.
Il faut lutter chaque jour sans répit pour le respect de nos droits, de nos vies. Mais tout ça ne va pas sans répression. La tranchée rouge en fut bien la leçon. En ce temps-là, courbé sous le fardeau, Michel Rondet a levé le flambeau. Il brille encore pour nous dans les combats. Il nous éclaire et nous guide à la fois.
La victoire et la liberté.
Oui, tous unis sur le front du travail, sans distinction des couleurs de la peau. Nous sommes tous noirs, quelle que soit notre race, et nous marchons sous le même drapeau.
C'est le drapeau de la classe ouvrière, fierté sublime au cœur des opprimés. Et dans ses plis, tout baigné de lumière, en lettres d'or, on y voit liberté. En avant, gueule noire, hissons notre drapeau, rougi du sang, couvert de gloire, de nos martyrs, de nos héros. En avant, gueule noire, fort de notre unité, nous marchons vers la victoire et la liberté.
Et donc, pas d'aide, pas de prime de...
Ah non, rien. Mon petit salaire de début de carrière a servi à compléter. Ma mère gagnait, c'est pas compliqué. Moi, je gagnais 22 000 francs. Pour donner une proportion, ma chambre rue Soufflot à Lyon me coûtait 8 000. Mais on était deux. On couchait dans le même lit, un gars qui est venu. Et donc, on a partagé une chambre à deux. Donc, mais le prix du loyer, c'était 8 000 par rapport à mon salaire de 22 000. Quoi. Et ma mère gagnait 15 000. La retraite de mon père. Voilà, donc j'avais un frère plus jeune qui a travaillé en usine. Il avait fait des études, donc lui, parce que normalement, mon père voulait pas que je continue les études, il voulait que j'apprenne un métier. À l'époque, il y avait plein de possibilités d'emploi, fraiseur, tourneur, ajusteur, tous les secteurs. Donc j'étais rentré à l'école pratique de Firminy, et puis donc j'ai commencé les cahiers, tout ça. Et puis, j'avais passé un concours, comme m'avaient fait présenter mes parents, qui s'appelait le concours des bourses des mines. Et donc, j'avais réussi ce concours, mais les mines ont dit à mes parents, on vous paye la bourse si votre fils continue ses études. Donc, on m'a extirpé de l'école pratique, et c'était une année de salaire de mon père, quand même, hein, la bourse. D'ailleurs, les mines auraient voulu, ça aurait été moi maintenant, je laissais partir mon fils, les mines m'auraient pris, ils m'auraient payé les études, quoi. Voilà. Donc, bon, ça s'est passé comme ça. Ma mère était très, très affectueuse. Elle n'est pas question de séparer les enfants. Ce qu'on n'a pas fait pour nos filles, puisque nous, dès 16-17 ans, pour leurs études, on les a laissées partir. On le paye peut-être un peu cher maintenant, pour d'autres raisons.
Voilà. Donc, tu n'as pas profité de la bourse
des... Non. Eh bien, si, ils l'ont perçu, mes parents ont perçu la bourse.
Ils l'ont perçu.
Donc, ils voulaient que j'aille au lycée à Saint-Étienne. Mais même là, ma mère n'a pas voulu. Parce qu'il y avait le bus qui allait, je sais pas s'il n'y avait pas le tram, enfin bon, c'était bien desservi, mais non, je suis rentré au cours complémentaire de Firminy.
Donc ils versaient la bourse sans obligation de scolarité particulière.
Si, c'était continuer les études secondaires.
C'était ça.
Ils ont accepté, bon, il y a dû y avoir des tractations, je ne sais pas.
Donc, et cette bourse, elle était censée financer les études.
Voilà.
Quand? Jusqu'au baccalauréat?
Ah non, mais c'était une somme globale qui était versée, quoi. C'était une somme globale qui était versée. Je n'ai aucune idée. Hein, parce que,
ah, c'est curieux, quand même.
Oui. Voilà, donc je suis allé jusqu'en... J'ai fait une année de seconde de prépa à l'école normale, là, justement, en instituteur. Et puis, donc, c'est là qu'il y a eu l'accident. De 56. Et puis donc je suis parti en Algérie, enfin pas tout de suite, je suis allé en Allemagne. D'abord j'ai fait un an en Allemagne et un an en Algérie, 14 mois en Algérie.
Voilà. Donc sur 56, tu avais quel âge?
56, j'avais 18.
18, on partait à 20 ans.
Donc je suis parti, eh ben oui c'est ça, 56, j'étais nommé à Lyon, je suis resté 2 ans à Lyon.
Tu faisais quoi?
Au centre de tri, j'étais nommé au centre de tri.
Tu triais les lettres?
Je triais les lettres.
Donc, et de formation, en fait,
j'ai pas eu de formation de mon métier, j'ai pas pris les guichets, les choses comme ça.
Ouais.
Parce que j'étais agent d'exploitation à l'époque. Donc, il y avait agent de tri, agent de guichet, et voilà.
Donc, tu attendais d'avoir 20 ans pour partir au service
militaire. Voilà, je suis parti donc en 58, en mars 58.
Et pendant ces deux années, tu pensais à l'Algérie ou...
Ah non, pas du tout.
Tu savais pas non plus ce qui s'y passait?
Non.
Comment t'expliques ça avec le recul?
Je sais pas. Effectivement, je pensais à ne penser absolument pas. Absolument pas. Je sais pas au niveau de l'information s'il y avait, s'ils en parlaient beaucoup, je m'en rappelle plus du tout. J'ai zappé cette période. Ce que je sais, c'est que j'allais à la piscine Garibaldi, c'était mon plaisir, une fois par semaine, et je me payais 6-8 à la sortie avec un verre de vin blanc. C'était... Mais sinon, pas de vacances, parce que je travaillais de nuit. Et donc, les vacances, c'était ceux qui avaient des enfants qui étaient mariés. Donc, j'ai jamais eu vacances à la bonne période, quoi.
Mais tu savais quand même que tu allais bientôt partir au service militaire.
Au service militaire, oui. Je crois qu'il y avait un peu d'inconscience, là, tout à fait. Oui. Puis, j'étais pas, à l'époque, aucune conscience, ni syndicale, ni politique, quoi. Il y a ça aussi.
Ton père, Non,
ne parlait pas du tout de ces choses-là. Mon père n'était pas syndiqué. Je me rappelle la Grande Guerre de 48, par contre, j'avais 10 ans. Et il en a parlé. Et l'ancien maire de Saint-Étienne, qui est décédé il y a 2 ans, Joseph Sangdol, c'est ce qui m'a frappé d'ailleurs, était venu faire une réunion pour soutenir les mineurs en grève. Il y avait eu 2 morts quand même, la CRS avait tiré sur les mineurs.
Donc, le service, ça se passe comment au départ?
Alors, au départ, j'ai fait. Donc, je ne voulais pas partir en Algérie. Parce que. Donc, je devais bien parler.
Tu savais quand même.
Je devais bien en parler. Mais j'ai zappé cette période, je ne sais pas pourquoi. Parce que. On en parlait, puisqu'on m'avait dit qu'en buvant de la bière salée, ça provoquait de l'albumine et qu'on pouvait être exempté. Donc, je l'avais fait, effectivement. Mais au lieu d'être exempté, je suis allé à Desgenettes. pendant 15 jours, où on m'a fait Radio des Rangs et compagnie, et puis après, donc je suis allé en Allemagne, j'étais au Fembourg, alors je joue au foot, j'étais bon au foot à l'époque, et donc j'ai fait le championnat allemand militaire, donc j'ai un très bon souvenir de cette période, évidemment. Donc j'étais toujours à la poste, et là j'étais à la direction des postes en Allemagne.
Parce qu'ils t'ont versé dans le postal.
Poste aux armées. La poste aux armées.
Poste aux armées. Pour une fois qu'ils utilisaient les compétences.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ce n'était pas toujours le cas. Par exemple, mon ami qui était prof, agrégé d'italien quand même, hein, il faisait les poubelles. Il conduisait le camion des poubelles à l'armée.
Bref, donc j'ai fait. Ça consistait à quoi, donc, ce boulot en Allemagne?
Alors en Allemagne, moi, je faisais le Wagmest, en fait, parce qu'il y avait la direction des postes. Et un bureau de poste militaire à Offenbourg, c'était à Offenbourg ça. Et donc j'allais chercher le courrier le matin pour les officiers, pour tout le service quoi. Et puis le soir je ramenais le courrier, puis je rentrais des voitures. Il y avait une Opel Capitan du colonel, il y avait des voitures comme ça, Olympia, Opel Olympia. Et puis je faisais les courses des gens quoi, des officiers.
D'accord. Et pas de formation entraînement militaire, pas de...
Rien.
Pas d'apprentissage, pas de trois mois.
Ah ben j'ai fait mes classes à Satonnet, mais elles ont été écourtées à cause de mon séjour à l'hôpital.
Ah oui.
J'ai fait 2 mois
à
Satonnet-Camp.
À Satonnet-Camp.
Voilà.
Et en Allemagne, on faisait un an maximum, non?
Un an, oui, un an.
Tu as fait un an.
Un an.
Et pendant cette année-là, tu pensais à l'Algérie?
Ah ben bien sûr, ah ben oui, surtout
avec
que...
Avec quoi, avec la trouille d'y aller, avec...
Pas spécialement, non, pas spécialement. J'avais surtout pas envie d'y aller parce que je sentais pas que c'était bien, quoi. Mais c'était relativement confus dans mon esprit, à mon avis. Et puis, le contingent avant nous, qui avait été vacciné contre la jaunisse, ils ont tous chopé la jaunisse et il y a eu plusieurs morts. Donc, ouais, le vaccin devait être périmé, je sais pas ce qui s'est passé, donc voilà. Alors, donc nous, on n'a pas été vaccinés contre la jaunisse, on est partis comme ça. Et moi, j'ai atterri à Azazga, en Grande-Kabylie, qui est une ville magnifique, dans la montagne. C'est au nord de Tizouzou, c'est à 40 km de Tizouzou à peu près. Et donc, comme j'avais le permis civil, on m'a affecté à la conduite du camion. Donc, j'ai passé les permis à Satonnet, justement, poids lourd, tout ça. Donc, je conduisais tous les véhicules pratiquement. Et donc, on était escorté par les dragons parachutistes, les 13e dragons parachutistes, c'était une unité de combat. Donc ils nous escortaient pour aller chercher le courrier à Tizouzou parce que la liaison d'Alger pour la Kabylie ça s'arrêtait à Tizouzou et après c'était des liaisons routières. Donc l'été j'avais un 1500 kg Renault bâché et un chien loup. J'ai fait un petit stage de maître chien à Blida avec le chien.
Il servait à quoi?
Il était chargé de garder les sacs. Il a failli faire passer le tribunal militaire. Parce qu'une fois, normalement, je vais vérifier. Parce qu'on s'arrêtait entre Tizouzou et Azazga. On s'arrêtait 2 fois, je crois, hein, si ma mémoire est bonne, pour déposer du courrier. Parce qu'il y avait des unités qui étaient cantonnées là. Voilà. Et donc, mon chien, une fois, il a sauté. Il a dit, ouais, une chienne. Pourtant, il n'était pas jeune, ce chien. Parce que normalement, ils sont affectés à la garde après avoir eu un service actif. Et donc, le chien est parti. Donc, je suis arrivé à Azazga, plus de chien. Bon, t'as chien. Alors j'ai vite voir le capitaine avec qui j'ai une bonne relation du 13e dragon. Il a monté un convoi spécialement pour essayer de retrouver le chien. Donc on a pris des risques parce que la route était coupée, c'était dangereux. Mon chien, donc on a fait cette escorte pour essayer de le retrouver. On l'a pas retrouvé. Et puis donc le responsable du bureau de poste me dit bon, je ferai un rapport demain. On est allé voir donc le capitaine qui a dit temporiser aussi un peu. Heureusement. Et puis après le dossier est parti à Tizouzou, c'était un bureau plus important. Et puis le chien, toujours pas de chien. Et puis au moment où le dossier allait partir à Alger et où je risquais effectivement le tribunal militaire, parce qu'un chien a beaucoup d'importance, même s'il est vieux, et le chien est rentré sur les genoux, tout seul. J'ai eu la chance, quoi. De la chance.
Et pourquoi c'est si important? Ça vaut pas si cher que ça.
Ah, bah si, mais ça vaut plus qu'un militaire. Hein.
Ça vaut plus qu'une vie humaine.
Ah oui, qu'une vie humaine. Ah
pour
oui.
Les militaires.
Ah oui, là je m'en suis rendu compte.
Une louve est flanqué, clouté, plutôt zonarde, et par certains côtés, rappelant la renarde, une louve cherchant l'aventure en un bar, vit une chienne afghane entrer là, par hasard. La belle était soyeuse et parfumée Chanel, vêtue de soie légère et de vison pastel. Cette aisance dorée que fortune vous donne était comme étalée sur toute sa personne. Ah, dites-moi, la belle afghane, d'où vous est tombée cette manne? Il semble que vous ayez tout. Elle répond, que prenez-vous? Et l'Afghane commande, et l'autre l'accompagne, évident force coupe du meilleur champagne. On se raconte un peu, on compare son sort, mais comment pouvez-vous, disait le cousu d'or, pouvez-vous supporter cette vie de bohème, où le premier venu est celui qui vous aime, celui qui payera peut-être le loyer, et la maigre entrecôte, et le col enfilé. Mais dites-moi, ma belle Afghane, à moi qui je suis vraiment profane, comment faire pour obtenir ce qu'à mes yeux fait reluire? Presque rien, cuisiner, faire un peu de ménage, élever des enfants, s'assurer qu'ils sont sages, être aimable toujours, amoureuse parfois, mais jalouse jamais, en échange de quoi? On a tout ce qu'il faut pour être longtemps belle, massage, thalasso et dessous de dentelle, caresse le dimanche et pas les autres jours. Et puis si l'on insiste, quelques mots d'amour, c'est merveilleux. Belle Afghane, je suivrai votre caravane. Mais quel est ce regard inquiet sur la montre à votre poignet? Eh bien, je regardais. Quoi donc? S'il était l'heure d'y aller, quoi déjà? Eh bien oui, je demeure assez loin. Et s'il était rentré? Rentré qui? Peu importe. Ah non, je veux savoir. Mon mari! L'anneau que vous portez à ce point vous enchaîne. Pas vraiment, pas toujours. Voyez, je me promène. Ah oui, promenez-vous, j'ai compris la leçon. Pour moi, je me sens libre avec mon vieux blouson. Rentrez chez vous, la belle Afghane. Moi, je préfère ma cabane. Et sans rester dans le décor, l'ouvre s'enfuit et court encore. L'ouvre s'enfuit et court encore.
Je pense qu'on n'a pas eu d'histoire parce qu'on transportait également la poste civile. Parce qu'il y avait un bureau de poste civile à Azazga. Et donc, on n'a pas eu de problème parce qu'on devait transporter en même temps les liaisons du FLN. Je pense. Je ne vois pas d'autre explication. Alors, partout autour, il y avait des accrochages.
Oui, enfin, ils n'étaient pas 24 heures sur 24 à attendre le passage d'un convoi, si?
Ben si, il savait, il connaissait les horaires.
Tout.
Ah oui, il n'y avait pas tellement peu de circulation. Ah, il n'y avait pas de circulation.
Les autochtones.
Il n'y avait aucun véhicule civil qui circulait.
C'était pas une zone interdite, si.
C'était une zone à circulation interdite. La route, oui. On ne pouvait circuler qu'escorté. Entre Azazga et Tizouzou.
Donc c'était une zone chaude, quoi.
Ah, c'était une zone chaude, bien entendu, oui. Bien sûr. D'ailleurs, comme unité, il y avait des unités de combat, quoi. Donc, le 13e dragon parachutiste dont on dépendait. Il y avait les hussards, il y avait des artilleurs, il y avait les chasseurs alpins. Donc, toutes ces unités étaient cantonnées dans un rayon de 50 km autour de Zazga et venaient chercher leur courrier tous les matins. Et nous, du courrier qu'on apportait donc de Tizouzou.
Des unités avec des musulmans dedans ou que des...
On n'avait pas de musulmans avec nous.
Pas de
non.
Musulmans, mais de...
Le problème qu'on avait, et un risque certain, c'est qu'on était isolé. On était un immeuble, une maison, quoi, une grande maison. On était une quinzaine de troufions, je parle comme ça, séparés du 13e dragon, qui lui avait de la garde autour, était vraiment organisé.
Qui était loin.
Alors que nous, on aurait pu nous égouiller comme de rien, quoi. Ah oui, absolument.
Jamais eu.
C'est pas le chien, il n'aboyait pas tout, il allait se faire caresser par tous ceux qui se présentent.
Il n'y a jamais eu d'attaque.
On n'a jamais eu d'attaque, non. Jamais eu d'attaque. Je pense justement parce qu'on rendait service. Et surtout, j'apportais la pharmacie. Enfin, je. Parce que c'est moi qui conduisais, c'est pour ça, mais on était plusieurs. J'avais mon camarade à côté de moi. Et donc, c'était la pharmacie Morin, je me rappelle bien, qui nous faisait une ristourne sur les médicaments, des 5%. Et donc, j'allais, tous les Algériens qui habitaient, pas tous, mais ceux qui avaient des prescriptions médicales, venaient nous voir, laissaient leurs prescriptions. On prenait les médicaments à Tizi Ouzou. Et nous faisait 5%, c'est pour ça qu'on s'était équipé d'une manière fantastique, avec frigo, avec on allait au restaurant manger le couscous toutes les semaines, on était 15 quand même, hein. C'était tout payé par la pharmacie de
Alors, ces 15 gars, ils faisaient quoi? Ils faisaient que la poste.
Alors, ils faisaient que la poste, on triait les paquets, on faisait toutes les opérations postales, mais militaires, des militaires. Ils voulaient envoyer un mandat, ils voulaient, voilà.
Et il y en avait comme ça dans toute l'Algérie, ou c'était...
Ah, dans tous les... Bien sûr, bien sûr. Notre BPM, c'était numéro 427, je crois. Oui. BPM 427 à Zazga. Et il y en avait partout, bien sûr. Il y avait une direction des postes à Alger, militaire. On avait un service parallèle, quoi, si je puis dire. Et on apportait la poste civile, donc, dans notre camion.
Et il y avait aussi la poste civile.
Il y avait aussi la poste civile pour les liaisons des Algériens et des Français
mais
qui habitaient.
Dans votre secteur, vous faisiez les deux, quoi. Civil et militaire.
Ah non, il y avait la poste civile qui faisait les opérations des civils, c'est-à-dire principalement des Maghrébins, mais également des Français ou autres qui habitaient là, quoi, des résidents. Et nous, c'était uniquement les militaires. Mais le transport se faisait dans le camion militaire, parce qu'il n'y avait pas de liaison civile entre Zazga et Tizi Ouzou.
Et votre camion, vous partiez tout seul ou il y avait une escorte?
Non, non, on était au milieu du convoi. Devant, on avait une ferrette. Une ferrette, et puis ou aftrac, ça dépendait, mais souvent c'était une ferrette. Et donc il y avait une dizaine, douzaine de véhicules.
Oui.
Ah oui, c'était important.
Rien que pour le courrier, 12 véhicules.
Non, mais je suppose qu'il y avait d'autres liaisons aussi. Ah. Il y avait d'autres corps armés qui devaient avoir des raisons d'aller à Tizi Ouzou. Oui. Mais là, je suis tombé sur des gens bien, quoi, aussi bien du côté du 13e Dragon parachutiste que du côté de la poste, quoi. Alors, c'était des grades équivalents. Nos responsables, ils avaient le grade d'inspecteur dans le civil, quoi. J'aurais pu rester, moi, à la poste de l'armée, par exemple. Mm-hmm. J'aurais gagné plus, évidemment, 60% de plus, pratiquement, et un avancement plus rapide à l'ancienneté.
Et ces convois, jamais une attaque?
Jamais. Enfin, moi, ce que j'ai vécu, non.
Donc toi, c'était pendant quelle période? En fait, t'es arrivé à quelle date?
Alors moi, donc je suis parti en 58, j'ai dû arriver au mi-59, oui, je suis arrivé en mai-juin 59 à Zazga, et j'en suis reparti en juin 60.
Ouais, donc la deuxième partie de la guerre, quoi.
Deuxième partie, oui. On avait de très bonnes relations, hein. Le voisin, c'est un horloger, Saïd, comment il s'appelle? Saïd Gamriren, un nom comme ça. Il nous apportait le couscous presque toutes les semaines. Nous, on lui donnait tous les restes de repas de midi et du soir. Nous, on a fait la pacification, si je puis dire.
Les bonnes relations.
Les bonnes relations.
Mais la guerre apparaissait comment?
Moi, je l'ai vu.
Pas l'impression que c'était la guerre ou...
On était un peu loin, mais on savait ce qui se passait. On savait quand il y a eu des patrouilles, il y avait beaucoup de patrouilles la nuit. Et souvent, il y avait un ou deux copains qui restaient, quoi. Ah, donc, oui. On le savait, oui. Les dragons parachutistes ont payé cher. Oui, il y avait des attaques de nuit, quoi.
Un patrouille, c'était des embuscades, je suppose.
Des embuscades, voilà, c'est ça. Oui. Donc, ils étaient victimes d'embuscades. D'ailleurs, ils n'étaient pas fiers d'y aller. Hein. Ils y allaient vraiment contraints et forcés. Donc, il y a eu le célèbre Lamy Rouge, qui était sur le secteur de la Kabylie, et qui, donc, a été tué là. Pendant que j'y étais, quoi. Et puis il y a eu l'opération jumelle où il y a eu beaucoup de dégâts aussi, et là les légionnaires sont venus.
Tu peux nous rappeler ce que c'était, l'opération jumelle?
L'opération jumelle, c'est une intervention d'une partie importante de l'armée qui était sur place, concentrée sur la Kabylie et surtout sur la partie montagneuse. Donc il y avait les légionnaires. Et puis toutes les troupes locales dont j'ai parlé tout à l'heure ont été concentrées pour faire une grosse, grosse opération d'encerclement de toute la classe, quoi, qui était là, en allant sur Blida, sur Beaune. Parce qu'on avait la montagne en face, puis de l'autre côté, la mer, c'était Beaune. Ça s'appelle Annaba maintenant.
Annaba.
Ouais. Oui, qu'est-ce que je fais? Donc, nous, la vie s'écoulait comme la poste, quoi. C'est notre travail de postier. On avait comme activité, donc il y avait la lecture. On jouait un peu au boule aussi. Mais on ne se sentait pas du tout menacé.
Oui,
on n'avait pas cette impression-là. Ce qui faisait peut-être qu'on n'y pensait pas trop.
Et la peur? Non, pas tellement.
Pas tellement. Non, pas tellement. Pas tellement.
Donc pas vraiment d'angoisse, le mal du retour, hein, pressé de revenir.
Oui, parce qu'on perdait notre temps, quoi. C'était du gâchis, quoi. Parce que, en plus, personnellement, moi, il faut que je me sente un peu utile, ou moi que je fasse quelque chose, je peux pas rester sans rien faire. Là encore aujourd'hui, je m'occupe de la RAC, mais je suis dans un conseil syndical, je suis au conseil d'administration du mémorial de la réussite à la déportation. Je trouve qu'il faut essayer de remplir son rôle de citoyen aussi, quoi.
Et l'armée, vous occupez pas à plein temps?
Ah non. Alors vers la fin, quand même, ils avaient affecté la garde, donc on allait monter la garde. Alors ça, c'était pas marrant. Il y avait le bruit des grenouilles, des crapauds là qui croissaient la nuit là.
La garde de la
garde. La garde chez le réserve dragon. Ça aurait dû être mieux chez nous de monter la garde, parce que on était complètement isolés, coupés. Hein. Ah oui. Et comme les gars, je suis bien sûr qu'ils auraient pu se servir de leur flingue.
Dans ces gardes, pas d'attaque non plus.
Non plus, non. Pas que je sache. Donc là, voilà. Mais par contre, on faisait pas les papouilles la nuit, quoi, les trucs. Heureusement, parce que d'abord, on n'était pas formés pour ça. Puis, on avait notre journée de travail quand même. Bon, les gars qui allaient en patrouille la nuit, la journée, ils dormaient, quoi. Mmh. Alors que moi, le matin, à 6h du matin, on partait au convoi. On rentrait à 13h, 14h. Et on était en assistance alimentaire par le 13e dragon. Parce qu'on était peu nombreux, on avait besoin d'être. Relié à un organe plus important.
Ouais. Et quel autre souvenir de la vie dans ce...
Ben des photos avec des Algériens, des petites filles, par exemple, un Algérien qui passe devant le bureau de poste et puis sa femme qui porte un gros truc sur la tête. Ou alors une autre photo aussi que je dois avoir, le gars il est sur l'âne et puis la femme elle porte un baluchon sur la tête, tu vois. Bon, ça nous choquait un peu, ça, quoi. Ça nous choquait un peu. Parce que nous, pour la femme, on a une autre vue sur le sexe féminin que de lui faire faire travailler comme ça, quoi.
Et de la part de la population, de la sympathie, quoi.
De la sympathie, ah oui. Ils nous donnaient, ils étaient très généreux. Quand on leur portait les médicaments, ils nous offraient à boire ou ils donnaient de l'argent. Ah oui. En plus de la remise que nous faisait le pharmacien de Tizouzou. Ah non, mais de ce côté-là, au niveau, comment je peux dire, matériel, c'était bien, quoi. C'était bien. Puis une région magnifique. Je me rappelle le petit parc d'Assasga avec les palmiers. Et puis, c'était en montagne quand même, donc il faisait pas très très chaud. C'était une très belle région. J'allais chercher de la viande pour le chien, là on appelait ça de la brêle, c'était de l'âne. J'ai des photos avec un gros morceau d'âne qui est pour lui, quoi. Mais le chien, de toute façon, quand je suis parti, bon, il est resté 2-3 jours sans manger par tristesse, mais bon, très rapidement avec le suivant, ça repartait. Hein. Ce qui s'est passé pour moi quand je suis arrivé et que j'ai remplacé le camarade précédent. J'ai un souvenir plutôt, pas de touriste quand même, faut pas exagérer, mais pas du tout en liaison avec ce qui s'est passé, quoi.
Mais t'as jamais vu de mort, t'as jamais vu d'exaction?
J'ai appris qu'un tel... Ben, par exemple, le gars qui m'a présenté le camion Renault là, que j'avais, le camion bâché, 1500 kg Renault, il m'a dit, voilà, il y a le truc est là, le cric est là, enfin il m'a montré un minimum de choses, le lendemain il était mort. Donc ça m'a choqué déjà, en arrivant à ça. Et puis il y avait les SAS, les sections pacifiques, hein, qui faisaient un bon boulot de contact avec la population, qui nous donnaient des nouvelles. C'est eux surtout qui nous apprenaient ce qui s'était passé.
Ah oui.
Parce qu'ils allaient vraiment sur le terrain. ils étaient à cheval. Et si on avait un bon contact avec la population, bon, mais ça se passait surtout dans la campagne.
Oui, on pouvait vivre là-bas sans se rendre compte qu'il y avait de la guerre.
On portait pas d'armes.
Oui, je l'ai demandé, t'as jamais eu d'armes?
Non.
Jamais eu envie d'en avoir, non?
Non plus, ah non, surtout pas. Surtout pas, mais... Non, si je peux donner un avis sur la guerre, je pense que nos dirigeants au plus haut niveau national n'ont pas traité cette affaire correctement. Il fallait appliquer les directives du Conseil national de la résistance qui accordait des droits aux Algériens, ce qui n'a pas été appliqué parce qu'il y a une réaction de Pieds Noirs et puis de la population qui avait le pouvoir à l'époque. Et sinon, on aurait dû accorder des droits et ça serait passé. L'Angleterre s'est bien mieux débrouillée avec l'Inde que nous avec l'Algérie. Il fallait absolument éviter cette guerre, mais bon, ça a piqué parce que finalement, on en est parti, ça s'est pas mieux rangé. Alors que moi, j'aurais trouvé normal que les Français qui sont nés là-bas, ils étaient chez eux, quoi, évidemment. Mais ils n'étaient pas tout seuls. Voilà. De toute façon, les gens qui avaient la richesse là-bas, comme les Borjoux et compagnie, il faut pas oublier quand même qu'on avait planté du vin à la place des orangers, alors que les Algériens ne boivent pas de vin, quoi. Hein. Bon, et ce vin-là concurrençait d'ailleurs le vin du Midi de la France, ce qui était lamentable. Voilà, donc on a fait des choses qui pas bien, quoi. Pas bien. Il fallait donner des droits aux Algériens. Je crois qu'ils étaient 10 millions à l'époque, pour 1 million à peu près de colons. Eh bien, il fallait partager les responsabilités, les droits, et les devoirs. Et puis, rester là-bas tous. Tous restaient là-bas.
Et la fin de ton service, donc, une date annoncée, t'as fait combien de mois en tout ?
28.
28, quand même.
Oui, ouais. Ouais, ça fait beaucoup. Donc... Ça m'a gâché ma jeunesse. Et même peut-être même ma vie professionnelle parce que j'avais un bon niveau scolaire, j'aurais pu passer des concours tout de suite, inspecteur et autres, que ça a été beaucoup plus dur après, quoi.
En 28, tu reviens donc
en juin 60.
En juin 60.
Et j'ai été nommé pendant mon service à Saint-Étienne. Je suis revenu à Saint-Étienne.
Ça se passe comment le retour ? Calmement ou ?
Calmement.
Tu n'étais pas avec des gens qui voulaient tout casser ?
Non. Ben, ma mère était encore là, elle est sclérose en plaques, donc j'ai occupé de ma mère jusqu'à son décès, quoi, pratiquement. Donc je l'ai gardée, j'avais demandé service de nuit au centre de tri, et donc, de toute façon, je n'avais pas eu les moyens Alors elle est à l'hôpital l'hiver, parce que je ne pouvais pas la garder à la maison, je n'avais pas de chauffage central, c'était un feu au charbon, hein, on était mineur, donc on n'arrivait pas à avoir un bon chauffage chez moi. Et quand je la mettais à l'hôpital, quand elle revenait, il y avait des escarres comme le poing, quoi. Je mettais encore plusieurs mois pour qu'elle guérisse de ça. Et donc, elle est en 63, donc je rentre en 60. Voilà. Et mon frère, qui n'aurait pas dû partir, puisque mon père était décédé, ils ont attendu que je rentre pour le faire partir. C'est pour ça que je me suis engagé dans l'association d'anciens combattants. Ça, c'est parfaitement injuste. Même moi, quand il est décédé, j'aurais dû rester à...
Comme soutien de famille.
Comme soutien de famille, bien sûr. Donc il est parti, donc je me suis occupé de ma mère, bien sûr. Lui s'en était occupé un peu avant. Ça a été une période assez douloureuse, là. Bon. Mais bon, et j'ai rencontré ma femme en Allemagne. Ma future femme, elle était chez son correspondant d'Allemagne. Et puis, donc, comme j'avais tout coupé les contacts, parce que... je parlais pas, on en parlait, puisque j'ai dit, on sait pas si on est d'Algérie, en fait, hein. Il y en avait qui raisonnaient comme ça. Il y avait des morts, quand même, hein, toutes les semaines.
Et
pour oublier qu'il y a eu pas 30 000 morts, mais plus de 26 000 morts, hein.
26 000, donc. Oui. 14 000 appelés.
Voilà, oui.
Et donc, tu reviens en France, tu milites aussitôt, époque où il se passait des choses, hein. En métropole.
Oui, je participe à toutes les manifestations pour l'arrêt de la guerre en Algérie, bien entendu. Oui, c'est sûr.
Un parti, avec le syndicat.
Syndicat.
C'était quoi,
CGT. CGT, oui. J'y suis toujours d'ailleurs. Parce que je pense qu'il faut qu'un salarié doit se solidariser. Donc voilà. Alors j'ai choisi la CGT peut-être parce qu'il s'était le plus implanté, qui correspondait peut-être le mieux avec ce que l'action qu'il fallait mener, quoi, plus vive, si je puis dire. Et puis voilà, je me suis même engagé dans le syndicat, puisque à ce titre j'ai été donc au bureau du syndicat, au secrétariat même. J'ai été administrateur à la sécurité sociale, à la CPAM et à l'URSSAF. Et puis j'ai été candidat aux élections municipales, puisqu'on avait décidé de former des listes de syndicalistes, puisque Sangdol c'était le responsable de l'union départementale, secrétaire général de l'union départementale. Donc voilà, on a été. J'avais accepté d'être candidat parce que je ne pensais pas qu'on battrait du rafour. Parce que j'avais deux propositions de mon syndicat. Ils voulaient que je sois secrétaire départemental. Ça veut dire être détaché. Moi, je voulais rester au contact avec le milieu de travail, quoi. Et puis, donc, le secrétariat, je n'en voulais pas. Je restais au bureau, tout ça, mais je ne voulais pas être secrétaire départemental. Et puis, il y a eu cette proposition pour les élections. J'ai accepté. Je ne pensais vraiment pas qu'on battrait du rafour. Et en fait, on a bien battu. À l'époque, c'est vrai qu'il y avait du chômage.
C'était en quelle année,
difficulté. Ça eh ben, 77.
77.
Ouais, j'ai été élu 77 à 83. Voilà, et puis donc, je continue pour défendre les droits des anciens combattants, parce qu'ils sont en train d'être mis en cause comme le reste. Ça veut dire que la nation, aujourd'hui, reconnaît de moins en moins le sacrifice, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin, quand même, c'est plus de 2 ans de jeunesse de passer à la trappe. Quand on revient de la guerre d'Algérie, on n'a plus envie d'aller danser, choses comme ça, effectivement. Bon, j'ai passé des concours, puis je me suis marié, quoi. Hein, puis,
c'est quoi, c'est la guerre d'Algérie ou c'est l'âge, simplement, qui fait qu'on sort
je
de
pense
la,
que il y a les deux. Mais il y a quand même la guerre d'Algérie, quoi. C'est... parce qu'on apprend les choses, même si on les voit pas, on sait ce qui se passe, quoi. Et surtout, c'est pas de belles choses pour nous. La France, qui a quand même une réputation d'être un pays en avance au niveau des droits des gens, des citoyens, etc., que là, on opprimait un pays, voilà.
Quand tu es revenu, tu as retrouvé tes copains,
oui.
Copines, comme.
Oui.
Comme. Ils étaient avant que tu partes ?
Non, pas bien les copines, non. Pas bien les copines, parce que certaines étaient mariées. Non. Puis j'avais rencontré donc Marie. Voilà.
Parce que certains disent que quand ils sont revenus, ils s'étaient déphasés par rapport à la vie qui avait pendant 2 ans évolué en dehors d'eux. Quoi.
Oui, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais des choses avaient changé. Surtout chez Firmini, la ville elle-même avait été modifiée matériellement, quoi, enfin, dans son texture de la ville.
T'avais l'impression là-bas que vous étiez là-bas pour d'autres intérêts que les vôtres ou pas ?
Je sais pas, je pense qu'il fallait, maintenant avec le recul et l'expérience politique que je peux avoir, évidemment, je sais que c'est ça. Mais à l'époque, je ne voyais pas comme ça, Mais ce qu'on voyait, c'est que les gens vivaient pauvrement, quoi. La majorité des Algériens, c'est bon. Et puis après, on a appris tout ce qui s'est passé, la torture, tout ça. On n'a pas été bien, quoi.
Tu l'as appris après, ça.
Oui, je l'ai appris après.
Torture là-bas, t'as jamais.
Non, non.
Les DOP, t'as jamais entendu parler, ni vu, ni su que c'était.
Non, ça me dit rien.
Une fois rentré en France, tu étais beaucoup occupé avec les soins de ta mère, mais
oui.
pas de militance pro-FLN ou de choses comme ça, quoi.
Non, j'ai soutenu mon prof d'anglais, Mademoiselle Vors, qui était arrêtée par la police, qui était à la prison de Bellevue. Je lui ai envoyé du courrier pour la soutenir. Elle hébergeait des responsables du FLN chez elle à Saint-Étienne. Et donc je l'avais soutenue, donc je me suis engagé carrément là, hein, avec mon nom et tout. Oui. Donc,
tu l'avais rencontrée à ce moment-là ?
Oui, non, mais j'ai pas pu la voir. Mais je lui ai écrit pour la soutenir.
Elle est restée longtemps emprisonnée.
Ah, je crois. Hein. J'ai pas su après, mais elle avait dû rester plus d'un an. Hein.
Ah oui. Tu sais rien de plus sur son
aventure? Non. Mais si, je sais qu'après la guerre, en 62, elle est allée enseigner à l'école normale d'Alger. Mmh. Elle est allée enseigner l'anglais. Disons que j'étais pas assez mature, je pense, pour m'engager comme ça, carrément, aux côtés des Falaises. Je soutenais moralement, bien sûr, et puis dans leur combat, parce que ils défendaient leur pays, et c'est nous qui avions le mauvais rôle. Mais, c'était pas si évident que ça. Mais toutes les actions, manifestations et autres, et pétitions, notamment après 61, le 17 octobre 61, l'action était, il y a eu quand même des manifestations extraordinaires, hein, pour arrêter la guerre d'Algérie.
T'en as des souvenirs précis de ces manifestations?
Oui, à Saint-Étienne, oui, c'était avec les camarades du syndicat, on participait activement, quoi, distribution de tracts et autres.
Et des confrontations avec la police, non?
Il y en a eu, effectivement.
Distribuer des tracts?
Oui, ah ben, bien sûr.
On ne pouvait pas distribuer longtemps en étant tranquille.
On arrivait à se débrouiller, on était postiers, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Si, mais c'est... Puis la population, petit à petit, a pris conscience des choses. Là aussi, ça a été long, mais une fois que les gens... C'était obligé que ça s'arrête. Le pouvoir ne pouvait plus continuer comme ça.
Oui. Je pense que la fin de la guerre d'Algérie, c'est majoritairement, c'est pas le mot qui convient, mais c'est essentiellement la population française qui l'a imposé.
Quoi. Ah, tout à fait. Tout à fait.
C'est pas les colons.
Non.
Les Algériens, les militaires disent qu'ils avaient gagné militairement.
Ah, sur le terrain, oui, sûrement. Sur le terrain, ils avaient gagné, oui. C'est pour ça qu'il y en a qui continuent à ne pas accepter le livre par 62. Là, il y a une grosse polémique sur cette date. Je regrette, mais le 8 mai 45, c'est l'arrêt de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale. Hein? Le 11 novembre, c'est celle de la Première Guerre mondiale. Donc c'est lorsqu'on signe, effectivement, la guerre ne s'arrête pas sur un papier. Sur le terrain, l'information arrive plus tard, et puis ça continue quelques temps. Mais ce qui est important, c'est la victoire de la paix, lorsqu'on signe un arrêt de la guerre. Voilà. Et ça a été le cas pour le 19 mars 62. Et donc, c'est dans l'histoire, c'est cette date qui restera dans les livres d'histoire. C'est pas une autre date. C'est pas le 5 décembre.
Et pourquoi il voudrait le 5 décembre?
Alors, le 5 décembre a été choisi par l'ancien président Chirac lors de l'inauguration du Mémorial national de la fin des guerres d'Algérie, qu'est Branly à Paris. Alors, il a choisi cette date sous la pression de l'UNC, d'associations d'anciens militaires, des carrières, d'associations d'engagés de droite, quoi, vous le dire, hein, l'Union fédérale, les pays prisonniers de guerre, l'Union nationale des combattants, l'UNC, qui sont de grosses associations. Et ils veulent pas entendre du 19 mars, prétexte que la guerre, ils l'avaient gagnée sur le terrain, effectivement, ce qui est vrai. Mais nous, je ne raisonne pas comme ça, puis ceux qui partagent mon avis aussi, ou plutôt que c'est moi qui partage le leur, c'est quand on arrête une guerre, c'est une grande victoire, et c'est cette date-là qu'il faut marquer. Quoi.
Mais le 5 décembre ne correspond pas à un événement...
Ça n'a aucun lien avec la guerre d'Algérie, sinon ce mémorial. Et d'ailleurs, à Saint-Étienne, heureusement, la RAC en a mené une bonne bataille, et j'y suis pour quelque chose... J'étais vice-président de l'association. Alors il y avait l'UNC, il y avait toutes ces associations là dont je viens de parler, PG Prisonniers de Guerre, les PG, donc PGCATM, l'UNC, l'Union Fédérale, la FNACA bien sûr, et on a créé une association pour réaliser le mémorial de la guerre d'Algérie, place Fonéron à Saint-Étienne, qui est un beau monument, je trouve. J'ai participé au choix. C'est deux pièces de granit qui se séparent, je ne sais pas si tu l'as vu, et au pied, il y a de stylisés, donc des Algériens, Français qui sont là-bas. Je trouve que c'est un monument moderne, sans trop, mais qui est très bien. Donc c'est la fracture, quoi. Et certaines associations, sans le dire, voulaient mettre sur le monument, alors on avait tous été d'accord, à l'unanimité, pour marquer sur le monument, hommage aux 230 enfants de la Loire morts pour la France en Algérie, Tunisie, Maroc. C'était, il n'y avait rien à rajouter. Mais il y en a qui sont toujours tordus et qui ont voulu mettre hommage à l'armée d'Afrique. Écoute bien, l'armée d'Afrique, c'est 20 ans avant, c'est 42. Et à nos frères d'armes franco-musulmans, c'était le pire. Mais heureusement, monsieur le préfet Bure, que j'ai contacté, qui m'a reçu d'ailleurs, à l'époque, nous a soutenus à fond. Donc ils n'ont pas pu le mettre. Ils voulaient mettre hommage à l'armée d'Afrique. C'est ridicule. Qu'ils fassent un monument en 42, mais bon, ça n'a rien à voir avec 62. Ah oui, c'est vrai, ce que je dis. Ça, c'était une histoire de fou, ça. Et donc, hommage à l'armée d'Afrique et à nos frères d'armes franco-musulmans. Alors, franco, ils associaient une nationalité, franco, et une religion musulmane. S'ils mettaient ça, il fallait mettre franco-catholique, franco-chrétien, franco-israélite, où on voit, mais c'était complètement, mais des tordus, quoi. Alors, heureusement, on a mis une bonne bataille. J'étais pas encore parti en vacances, parce que, comme de juste, ces coups-là, c'est toujours au moment des vacances. Donc, là, je suis bien content de ça, parce que j'ai tout un dossier que j'ai déposé aux archives départementales, d'ailleurs. Donc, on a empêché. Alors, ils ont mis une plaque à côté. Bon, bah, très bien, ça. Mais sur le monument, c'est le monument à la guerre d'Algérie, point final.
Voilà. Donc, il a été avec les 230.
Voilà, avec l'intitulé qu'on a prévu.
Les noms des gars aussi, quelque part
Non, ils sont dans un, sur un rouleau, dans le monument.
Un parchemin.
Donc, il y a toutes les années, il y a deux manifestations. Comme la FNACA est très implantée à Saint-Étienne, je crois qu'ils avaient autour de 10 000 adhérents. Donc, ils font le poids pour imposer. Alors, le 19 mars, c'est vraiment, à Saint-Étienne, c'est quelque chose d'important. Il y a 1 millier de personnes. Hein. Ah oui, il y en a beaucoup plus que pour les autres manifestations des autres conflits. Et nous, on est présents. Enfin, moi maintenant, puisque je ne suis plus président départemental, mais je participe. Le 19 mars, c'est ma date. La date est réservée, comme celle du 8 mai. Mm-hmm. Et le 11 novembre aussi, bien sûr. Mais... Alors nous, on a un gars aussi qui s'appelle Maurice Audin. J'ai fait mettre une rue à côté de chez moi, là, un peu plus loin, Maurice Audin. Parce que quand j'étais conseiller municipal, j'étais président de la commission d'hommage public. Donc, c'était un nom auquel je tenais. Enfin, c'est le maire, mais c'est sur ma proposition. Je ne suis pas d'accord, mais je ne veux pas m'écarter de la guerre d'Algérie, mais enfin, c'est lié quand même. Aujourd'hui, il est question de faire, comme aux États-Unis, un Memorial Day. Mais le choix, je ne suis pas d'accord. Si jamais ça doit se faire, puis effectivement, il y a de moins en moins de monde qui participent, il faut se rendre compte de l'évidence. Le choix du 11 novembre n'est pas un bon choix. Pourquoi ? Parce que le 11 novembre, c'est là qu'on a massacré les gens, qu'ils étaient résignés. 1 500 000 jeunes Français de 20 ans tués. Les fusillés pour l'exemple, par exemple, qui se sont rendus compte qu'ils voulaient bien se battre, mais pas aller au massacre, qui ne sont pas encore réhabilités. Donc je participe au soutien de ça, évidemment. Et par contre, le 8 mai, là, c'est une guerre. Il y a deux bonnes raisons de choisir cette date comme Memorial Day éventuel, hein, je dis bien, hein, parce que moi je souhaite qu'on, parce que les guerres, les dates historiques sont les dates de la mémoire, hein, donc. Mais si jamais ça doit se faire, il faudrait choisir le 8 mai, parce qu'on valoriserait ceux qui ont résisté, hein, pas oublier que ce sont, les gens se sont résistés, mais aujourd'hui on veut nous imposer la résignation, et on veut aussi, deuxième chose, c'est la résistance, et la première chose, c'est que c'est la victoire sur une idéologie inacceptable et insupportable. Voilà, donc c'est deux bonnes raisons de garder cette date. En manque de peau, nos gouvernants, y compris ceux-là d'aujourd'hui, vont encore accepter l'Europe. Déjà, d'ailleurs, pour les commémorations, on parle du 11 novembre. Et à Saint-Étienne, on ne s'arrête plus, pour la commémoration du 8 mai, on ne s'arrête plus devant le mémorial Jean Moulin. On va directement au monument de la guerre, Première Guerre mondiale.
Les soldats de 1830 de Toulon aux côtés d'Alger ont vagué sur la conquérante pour mourir sous les orangers. Ils ont vu le soleil de gloire écrit pour des orphelins. Quelques pages de notre histoire périmées dès le lendemain. Mais il reste des monuments et des noms
à donner aux places. C'est avec ça que l'on remplace ceux qui sont morts au régiment. C'est avec ça que l'on remplace tous ceux qui sont morts à 20 ans. Un jour de 1914, sont partis la fleur au fusil, tout joyeux et bombant le torse, des millions d'enfants éblouis. Ils ont remporté la victoire et sont morts pour que leurs enfants n'aient jamais à écrire l'histoire en la payant au prix du sang. Mais il reste des monuments et des noms à donner aux places. C'est avec ça que l'on remplace ceux qui sont morts au régiment. C'est avec ça que l'on remplace tous ceux qui sont morts à 20 ans. Voilà qu'en 1940, des soldats au cœur de l'été ont connu une autre tourmente et couru jusqu'aux Pyrénées. Les anciens, tout couverts de gloire, regardaient passer leurs enfants, se disant qu'on refait l'histoire à peu près tous les 25 ans. Mais il reste des monuments et des noms à donner aux places. C'est avec ça que l'on remplace ceux qui sont morts au régiment. C'est avec ça que l'on remplace tous ceux qui sont morts à 20 ans. Puis ce furent les années 50, l'Indochine et encore Alger, les batailles déshonorantes et les morts sous les orangers. Il fallut rengainer la gloire et reprendre son fourniment, reconnaître que cette histoire ne valait pas un monument. On donnera d'autres noms aux places. On peut vivre sans monument. Nous savons que rien ne remplace ceux qui sont morts au régiment. Nous savons que rien ne remplace tous ceux qui sont morts à 20 ans.
Ainsi se termine cette émission consacrée à Lucien Montagnon, un des 1 343 000 jeunes français appelés entre 1955 et 1962 qui ont été envoyés combattre en Algérie. Au fil de cette émission, vous avez pu entendre les illustrations musicales suivantes: En avant gueule noire de Gabriel Maritan, paroles et musique interprétées par Christian Auriol. Gabriel Maritan, l'auteur que vous avez entendu accompagner de sa voix celle de Christian Auriol, était un mineur délégué CGT qui fut condamné à 8 mois de prison pour son action lors des grèves de 1948. Il écrivit à ce moment-là, depuis la prison de Bellevue, cette chanson, texte et musique. Puis vous avez entendu La Louve et l'Afghane, c'est une adaptation des Fables de La Fontaine d'Anne Sylvestre par Anne Sylvestre. Et enfin, Aimé Gaillard, interprétait le texte de Bernard Clavel sur une musique de Bernard Gérard, Les Monuments. Bonsoir. Thank you.